créer, charbonner,
job,
tôle, gagner,
peindre,
chagrin,
jardiner,
tôle,
urbain,
gagner,
AVS,
créer,
charbonner,
tôle,
travailleur du sexe,
peigner,
preneuse de son,
exécuter,
ouvrier agricole. Quel que soit notre rapport au travail, chacune et chacun d'entre nous a une expérience à partager sur les faits et méfaits du turbin. C'est cette expérience que nous souhaitons explorer. Observer le monde par le prisme du travail et ses conditions d'exercice. Le principe de l'émission est simple. Un même questionnaire pour différentes expériences au travail. Une trame de questions inspirée des enquêtes ouvrières ou enquêtes conscientisantes, qui donne à ces entretiens un aspect à la fois universel et singulier. Une même trame qui parle d'organisation du travail, de hiérarchie, d'outils, de solidarité, d'évaluation, de sens, d'épuisement. Une trame qui mêle vécu et analyse.
Bonjour, bienvenue aux Chroniques du Travail sur Canal Sud 92.2. Petite reprise après pause Covid pour tous et toutes. Aujourd'hui, on accueille Kim, qui est interprète en LSF.
Bonjour.
Bonjour. Qui a bien voulu se prêter au jeu. C'est parti. Alors, quel est ton travail? Est-ce que tu peux le décrire?
Alors, je suis interprète français, langue des signes française. Donc, mon travail, c'est d'interpréter en simultané, dans différentes situations, les discours de tous les locuteurs qui sont dans la situation.
D'accord. Tu fais ça depuis longtemps?
Je fais ça depuis 5 ans.
D'accord. Tu as une formation?
Oui, j'ai une formation. Pour devenir interprète, il faut avoir un master interprétariat français langue des signes française. Et du coup, pour rentrer dans ce master, il faut déjà être bilingue, français et LSF.
D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu fonctionnes? Tu as plusieurs employeurs, un seul employeur? Est-ce que tu es auto-entrepreneuse? Comment ça se passe?
Eh ben, j'ai le statut de salarié. Je travaille dans deux structures différentes, dans une association, une petite association, où on est 5 interprètes. Et en plus, on n'est pas que des interprètes, il y a aussi un collègue intermédiateur sourd. Et après, je travaille dans une autre structure qui est beaucoup plus grosse, qui est une coopérative d'interprètes, où là, on est 25 interprètes.
D'accord. Cette coopérative, elle est régionale, enfin, elle est liée à notre bassin de vie, ou elle est...
Elle a été créée, je crois, qu'il y a plus de 20 ans maintenant, à Toulouse. Et c'est la première coopérative d'interprètes qui a vu le jour en France.
D'accord. Bon, c'est tout à fait opportun, on peut le dire. Toulouse est la métropole après Paris où il y a la plus grande communauté de sourds et malentendants. Pour une raison simple, c'est que les gens peuvent avoir une scolarité de la primaire jusqu'à la fac en double langue. Mmh. Voilà, c'est une des seules métropoles où c'est possible. Voilà, d'où en effet, ces opportunités de travail pour toi localement. Quel est ton volume horaire? Est-ce que tu as quelque chose de régulier ou est-ce que...
Oui, c'est un peu l'avantage du salariat parce que précédemment, quand je ne travaillais pas à Toulouse, je travaillais à mon compte. Et donc là, l'avantage du statut de salarié en tant qu'interprète, c'est que quelqu'un d'autre gère ton planning, ce qui n'est pas négligeable comme gain de temps. J'ai des jours de travail fixes.
D'accord.
Moi, j'ai choisi de travailler à temps partiel. Je travaille à 70%, donc je travaille du mardi au vendredi soir, enfin du mardi 14h jusqu'au vendredi soir. Et après, en fait, donc c'est réparti entre mes deux employeurs. Donc en gros, je travaille un jour et demi pour un de mes employeurs et 2 jours pour l'autre. Et donc c'est divisé en demi-journée, le temps de travail. Il n'y a pas forcément le même fonctionnement entre les deux structures. Les deux ont leurs avantages en réalité. Et après, en fait, les horaires, ça va varier selon la demande, parce que c'est un métier qui demande vachement de flexibilité. Donc c'est la question de comment est-ce qu'on se protège assez. Donc justement, comment la coopérative, parce que c'est quand même un modèle particulier de travail, et comment l'association aussi, c'est quand même un modèle particulier, nous protège et nous donne du coup des garanties à la fois de salaire et de respect des conditions de travail. Donc, par exemple, on ne peut pas traduire plus de 4 heures par jour. Donc, sur un 70%, ça veut dire qu'on a une proportion préparation et une proportion production, donc production, interprétation, préparation 40%, production 60%. Donc, ça fait qu'en réalité, sur un temps plein, si je travaille à temps plein, je peux traduire maximum 20 heures par semaine.
D'accord.
Donc, ça permet de nous protéger des maladies professionnelles aussi.
D'accord. Les deux structures se coordonnent entre elles ?
Non, pas du tout. Elles sont séparées. Après, elles ont un lien historique. C'est la coopérative qui a créé cette association. Avec la vocation, du coup, parce que la coopérative, elle répond à des besoins, des rendez-vous qui peuvent être pris très en avance. Parce qu'il faut le dire, c'est un métier où on est, en France, je pense aujourd'hui, on est entre 500 et 700. Donc, on est un métier qui est peu développé, même s'il se développe ces dernières années. Donc, en fait, il y a un réel besoin d'interprètes, et notamment à Toulouse, où il y a une, comme tu disais, c'est la capitale des sourds. Donc, il y a une population sourde qui est très importante. Et aussi, contrairement à d'autres villes, une population sourde qui travaille. Et ce qui change aussi beaucoup de choses, parce qu'on a une population qui sourde qui travaille, mais aussi qui étudie, ce qui n'est vraiment pas le cas. Moi, quand je travaillais à Rennes, j'interprétais jamais à la fac, il n'y avait pas d'étudiants sourds à la fac. Donc ça fait qu'il y a un volume horaire d'interprétation qui est très conséquent. Et donc, la coopérative, elle a la vocation de pouvoir répondre à des demandes qui sont prises très en avance. Évidemment, elle a une forme de réactivité avec des annulations le jour même ou la veille, de pouvoir te replacer à un autre rendez-vous. Mais l'association, elle avait été créée par cette coopérative justement pour pouvoir proposer une forme un peu plus souple, plus flexible, pour notamment des sourds qui vont avoir des besoins d'interprétation dans leur vie privée et qui peuvent en fait être des choses qui arrivent à la dernière minute. Typiquement, des parents qui apprennent que la maîtresse les convoque le soir même pour avoir une discussion. La plupart des services d'interprètes ne peuvent pas répondre à ce type de demande de dernière minute. Et du coup, l'association, elle a cette vocation-là. C'est-à-dire qu'on a, les gens ont un volume horaire d'heures, ils ont un volume d'heures d'interprétation par mois, ils payent un forfait pour ça. Et après, ils peuvent nous réserver jusqu'à 2 heures avant un rendez-vous. Donc ça permet, ça leur permet en tout cas plus de flexibilité aussi de leur côté.
D'accord. Donc ce qui veut dire que tu te déplaces partout.
Et oui.
Est-ce que ce temps de déplacement et ces frais de déplacement sont pris en compte, considérés par exemple ?
Ouais, ils le sont évidemment. Avec. Ça dépend en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à Toulouse, évidemment, quand on est interprète, le premier stress, c'est ne pas arriver à l'heure. Parce que si on n'arrive pas à l'heure, la situation, elle ne peut pas commencer. Donc, les gens sont dépendants de nous pour le rendez-vous. Donc, on a toujours les 15 minutes d'avance recommandées dans le boulot qu'on applique plus ou moins selon qu'on connaisse la situation. Mais du coup, moi, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas la ville. Et donc, c'était un des gros enjeux. Donc, au début, je me déplaçais beaucoup en voiture parce que je ne maîtrisais pas très bien les transports en commun. Et surtout, j'étais très stressée du retard possible des transports en commun. La voiture s'est remboursée de manière très différente selon les deux structures. Il y a une structure où, en fait, dans le prix de vente de l'heure d'interprétation, les frais de déplacement sont compris. Mmh. Et de toute façon, moi, j'ai un salaire fixe dans les deux. Donc, on n'est pas payé à la tâche. Mmh. Donc, finalement, c'est un peu leur organisation en interne. Les comptables, ils font leurs équilibres comme ils veulent. Mais en tout cas, moi, je suis payée avec de l'interprétation. Enfin, c'est compris dans le prix de vente. Et moi, je suis remboursée, quoi.
C'est quoi tes contrats avec ces deux structures ? CDD, CDI, CD...
Eh bien, là, j'ai un CDI dans l'association. Et j'ai... un CDD qui va jusqu'en mai dans la coopérative. C'est
D'accord.
mon deuxième CDD.
D'accord. Tu peux nous donner ton salaire ?
Alors, à 70%, je suis payée 1000... Faut pas que je dise de bêtises. 1300 et des brouettes.
D'accord. Ok. Et avant la petite pause, est-ce que tu nous décrirais une journée type de travail entre le mardi et le vendredi quand tu es au travail? Voilà, une journée type.
C'est compliqué une journée type parce qu'il n'y en a pas, justement.
Ouais.
C'est un peu la journée type de l'interprète, c'est le fait que c'est une journée qui n'est jamais une journée type, qui est toujours originale. En général, on pourrait imaginer que je me lève, j'ai un premier rendez-vous, on va dire, allez, j'ai un premier rendez-vous au Collège Malraux à 8h30 pour le cours d'art plastique, et je traduis une heure, puis j'ai une heure et demie où j'attends à Ramonville dans un café, et sachez qu'à Ramonville, il y a peu de cafés, donc il n'y en a qu'un. Enfin, il y a le fameux pub Oxford où on peut traîner et j'attends une heure et demie, puis je vais traduire un rendez-vous à l'hôpital de Rangueil, une heure, puis par chance l'après-midi j'ai un binôme avec une collègue, ça c'est rare et c'est précieux les moments où on peut travailler à deux interprètes parce qu'on travaille souvent seul, donc j'ai un moment, une intervention en binôme avec une collègue. On se retrouve un peu avant pour bavarder et on traduit 2 heures de réunion institutionnelle. Si c'était une journée très lourde, je pourrais avoir le soir un cours magistral à la fac de 18h30 à 20h30, celui qu'on n'aime pas trop. Voilà. Et puis je rentrerai chez moi.
En effet, dans cette description rapide, on imagine que tu es seule.
Ouais.
Que tu es seule de lieu en lieu et dans la progression de ta journée, de ton travail. On fait une petite pause musicale ? Chronique du travail, retour avec Kim, interprète en LSF à Toulouse, au sein de deux structures, une coopérative, une association. On va parler justement de l'organisation du travail. Quand tu as décrit ta journée type, on a bien compris que c'était un travail beaucoup en solo. Ouais. Cependant, tu as des collègues.
Oui, heureusement, je les adore.
Donc, d'abord, on va parler de ses collègues. Est-ce qu'on pourrait qualifier les interprètes en général ? Par exemple, est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes
Ouais, bah bien sûr, il y a des catégories sociologiques très représentées. En fait, on est, je pense, 90% de femmes à exercer ce métier.
D'accord.
Comme la plupart des métiers liés à la communication. Et comme la plupart des métiers, malgré le fait qu'on soit 90% de femmes, les gens qui parlent le plus de ce métier dans les médias sont des hommes.
Très bien. Et à quel moment, donc, comment, donc, dans cette masse de travail, tu parlais d'un temps de préparation, par exemple, pour la coopérative. Mmh. Tu disais 60% en présentiel, 40% de prépa. Est-ce que cette prépa, tu l'as fait encore seule ou est-ce que tu retrouves des collègues?
Alors ça dépend. En général, la préparation, ça va dépendre. C'est-à-dire que si c'est sur un cours à la fac, c'est moi qui vais faire les démarches de contacter le prof en question ou l'étudiant pour avoir accès au cours, pour le lire en amont. Après, si par exemple c'est une matière où je sais que certaines collègues, soit par leur cursus universitaire, ont eu l'occasion d'étudier cette discipline, ou alors par leur ancienneté dans la boîte, ont été amenés à traduire ce type de contenu, je vais les contacter. On est beaucoup en contact par SMS, on s'appelle beaucoup entre collègues pour ce type de choses. Ou alors, si on doit traduire un rendez-vous pour un client, si on voit sur le planning qu'une collègue a traduit pour ce client-là dans la même situation quelques semaines auparavant, on va lui demander. Donc on échange beaucoup de mails, on échange beaucoup de SMS. On est aussi très en lien avec le secrétariat. Du coup, dans une des structures, le secrétariat, c'est en fait des anciennes collègues interprètes qui se sont reconverties.
D'accord.
C'est elles qui font nos plannings et moi, j'échange plusieurs fois par jour avec elles pour des changements, pour des demandes de précision. Qu'on est quand même très en lien, même si on est rarement ensemble au même endroit.
D'accord. Et il n'y a pas de rapport de hiérarchie ?
Alors, si. Dans la coopérative, notamment, c'est une coopérative qui fonctionne avec une gérance qui est élue tous les 3 ans. Mm-hmm. Donc, les gérantes de la coopérative, c'est toujours des interprètes. C'est ça la spécificité, c'est que c'est des personnes qui font le même métier que le mien à la base, mais qui, pour un mandat de 3 ans, se voient, attribuer un certain nombre de missions de gestion. Je pense que c'est... après, c'est un avis personnel. Je pense que l'autogestion sous le capitalisme, c'est difficile dans le cadre du travail. Je pense que c'est même des fois pas souhaitable parce que ça crée des conditions difficiles. Là, en ce moment, on le voit avec la question du Covid, du vaccin, tout ça, ça fait des débats difficiles dans des boîtes qui essayent d'avoir des discussions entre salariés. Du coup, autant dans la coopérative, je pense que c'est assez clair que... Il y a des structures et des organes de discussion entre les salariés et la gérance, sachant que la gérance, c'est pas une gérance, c'est pas des patrons, c'est voilà. Des collègues, mm-hmm. Mais qui ont évidemment en tête des enjeux que moi, en tant que salarié, je n'ai pas. Donc évidemment qu'elles ont des enjeux de production dans la tête, qu'elles ont des enjeux de bilan financier que moi, je n'ai pas. Donc c'est une forme de hiérarchie que moi, personnellement, je ne subis pas, que je ne sens pas pesante. Après, dans l'association, pour le coup, il n'y a pas cette hiérarchie. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, dans le sens où il y a un certain nombre de tâches pour lesquelles on n'est pas formé. Enfin, moi, je ne sais pas faire de la gestion d'une entreprise ou d'une association. Et en fait, on vend quand même de la prestation, quoi. Du coup, à un moment donné, il faut savoir faire... faut savoir gérer, quoi. Et je pense que des fois, c'est un peu branlant du côté de l'association parce qu'on n'a pas toutes les compétences nécessaires. Du coup, on se serre au maximum les coudes, mais parfois, c'est un peu difficile, quoi.
Ça nécessiterait peut-être d'embaucher quelqu'un strictement sur, sur ce type de tâche.
Ouais, c'est un peu en discussion.
Ouais.
Ouais.
D'accord. Quelle chance. Quelle chance de travailler dans ces conditions.
Je sais.
Très bien. Est-ce que, par exemple, sur l'évolution du métier, sur éventuellement des conventions, est-ce qu'il y a des moments où il y a une corporation, où il y a des états généraux, des interprètes? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez et surtout vous pouvez élaborer les conditions de votre métier? Est-ce que ça existe de les repenser, de les questionner? Est-ce que ces moments-là existent?
Oui, ils existent. En fait, on a l'association des Françaises des interprètes français langue des signes française qui existe, donc la FILS, qui, je ne sais plus depuis quand elle existe, mais ça fait un moment. Et cette association-là, elle a pour vocation de justement d'offrir un espace de discussion entre les interprètes. Et aussi, elle a vocation à faire des recommandations, donc sur les conditions de travail. Après, c'est pas, y a pas de cadre juridique, on va dire, qui est lié à la FILS et qui permet à la FILS d'être dans, on va dire, d'obliger des employeurs, par exemple, à respecter ces conditions de travail. Mais elle a pas de possibilité de poursuite, etc. C'est un peu... Bon, en fait, c'est que c'est compliqué pour les interprètes de se syndiquer parce qu'on est une profession qui est extrêmement minoritaire. Quand je dis 700, maximum 700 personnes qui exercent ce travail sur le territoire, c'est vraiment dérisoire. Donc, pour les interprètes qui veulent se syndiquer, on est obligé de se rattacher à des UL. Mais du coup, des UL qui ne connaissent pas forcément des unions locales.
D'accord.
Du coup, on ne va pas être rattaché parce que les syndicats s'organisent par secteur. Et du coup, c'est compliqué dans notre métier, vu comme il est minoritaire, d'être rattaché à un secteur. Mais du coup, on peut se rattacher à une union locale qui est l'ensemble des secteurs du syndicat. Et en fait, bon, moi, c'est sûr que ma situation de travail aujourd'hui, elle est, comme je l'ai décrite, c'est un degré d'exploitation très bas, et je le sais. Je pense que ma situation n'est pas celle de tous les interprètes en France. Notamment, il y a des interprètes qui travaillent dans des structures plutôt du médico-social, donc des grosses structures.
Type ITEP.
Plutôt type... Alors, ça demande d'expliquer un peu le fonctionnement, mais en gros, en France, il y a un marché qui est ouvert depuis pas mal d'années maintenant, puisque du coup, depuis la loi de 2005 sur la reconnaissance, voilà, sur la question du handicap et de l'égalité des chances et de la citoyenneté, il y a tout un cadre qui a été créé au niveau institutionnel pour les personnes sourdes. Donc, ils ont droit à un certain nombre d'aides financières. Et notamment, une de ces aides, c'est de considérer que les sourds ont plus de difficultés à accéder au marché de l'emploi. Et donc, il y a une obligation maintenant que vous devez connaître d'un pourcentage de salariés handicapés qui doivent être embauchés par les boîtes à partir du moment où elles dépassent un seuil de salariés. Si ce n'est pas le cas, elles payent des amendes. Ces amendes-là, la plupart des entreprises préfèrent les payer que d'embaucher des personnes dites handicapées. Donc ces amendes-là, il y a des entreprises qui payent vraiment beaucoup d'argent par an pour ça. Cet argent, il est collecté par un organisme qui s'appelle l'AGFIP. Et l'AGFIP, derrière, redistribue cet argent, donc fait des appels d'offres, et redistribue cet argent à des structures qui ont vocation à permettre et favoriser l'insertion professionnelle des personnes sourdes. Et ces appels d'offres, ils sont donc majoritairement gagnés par des grosses structures, de type... toutes les structures qui finissent par DA, donc déficient auditif, qui embauchent des interprètes en interne, mais dans lesquels il y a la convention, par exemple, sous laquelle exercent les interprètes, est une convention qui est liée au médico-social, donc c'est une convention qui n'est pas du tout avantageuse pour les interprètes. C'est la convention 66, donc c'est la convention de tous les métiers du social et du médico-social, et cette convention, elle est très critiquable, à part sur la question des récup, je crois, où elle est pas mal, mais pour le reste, pour les grilles salariales, c'est assez scandaleux. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'interprètes aujourd'hui qui se retrouvent à travailler dans ce type de structure parce que ces structures gagnent des appels d'offres. Donc, ces structures ont des volumes horaires d'interprétation à assurer. Et dans ces structures-là, il y a des tentatives d'organisation en interne, mais qui sont parfois, du coup, menées avec des syndicats parce que c'est justement des structures... grandes, dans lesquelles il n'y a pas que la profession d'interprète, donc il y a des syndicats qui sont présents et qui obtiennent plus ou moins de choses. Mais sinon, il y a aussi des luttes internes qui sont de manière plus discrète de négociations en interne, parce qu'il y a de plus en plus d'interprètes qui refusent de travailler sur cette grille salariale-là, qui considèrent que leur travail est spécifique et que du coup, faire un 35 heures de présentiel, c'est pas envisageable. Enfin, voilà. Donc il y a des choses qui bougent.
D'accord. Et par exemple, pour ces salariés-là, est-ce que l'AFIS, comme tu disais, cette organisation, donc une espèce de corporation un peu d'interprètes, est-ce qu'elle peut être aidante pour ces gens ? Par exemple, pour proposer des supports de revendications et des...
Là où l'AFIS peut être aidante, c'est sur le fait qu'elle produit des documents. Qui n'ont que des vocations prescriptives, mais quelles sont les conditions optimales des interprètes pour qu'ils puissent réaliser leur travail convenablement, c'est-à-dire à la fois pour les clients et à la fois pour eux-mêmes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le maximum de 4 heures d'interprétation par jour, dans la limite du possible, parce que ce qu'on observe, c'est que quand on dépasse ce volume-là d'interprétation par jour, sur une durée un peu longue, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une de ces structures qui finit par DA, et... ce que j'ai pu observer sur que 2 mois de travail là-bas, c'est que et moi et ma collègue, on était à ce moment-là, on commençait à souffrir de TMS, du coup de troubles musculo-squelettiques, notamment de tendinite. Donc c'est un problème récurrent dans le métier, les tendinites, mais que là, en laps de temps très court, alors que j'en avais jamais eu dans ma carrière, je me suis retrouvée à avoir une tendinite Et ça, c'est lié au fait qu'on traduisait trop, et surtout, on traduisait trop seul. Parce qu'on traduisait parfois 2 heures... Enfin, on traduisait tout le temps, en fait, 2 heures seul. Et normalement, à partir du moment où on va traduire plus qu'une heure ou une heure et demie seul, c'est pas possible. Et donc, on est toujours normalement en binôme. Mais pour des questions de baisse de tarifs de vente, cette structure préférait vendre une interprète. Et du coup, on se retrouve à avoir des conditions de travail très compliquées. Et ça, c'est la réalité de pas mal d'interprètes aujourd'hui en France, quand même.
D'accord. En effet, parce que l'AFIS, elle prescrit 1h30 maximum d'interprétariat par personne, avec une pause de 4 heures consécutives à cette séquence. Pas forcément.
Non, pas une pause de 4 heures, c'est 4 heures d'interprétation maximale.
Par jour.
Par jour. Ouais. Et donc, ça veut dire que si je dois traduire 2 heures, il faut que je sois accompagnée d'une collègue.
Oui, voilà. D'accord. Et c'est vrai que ça fait rêver de se dire que ces interprètes qui se sont auto-organisés dans l'AFIS et qui ont pour l'instant juste une force de prescription, si elles pouvaient déterminer les conditions de travail, que ce soit les interprètes elles-mêmes qui organisent la profession, c'est vrai que ce serait une espèce idéale et que pour le coup que ça aille au-delà de la prescription et que ce soit respecté dans ce type de structure.
Oui, c'est sûr. En fait, l'AFIL, c'est la seule organisation qui nous représente aujourd'hui en France. Du coup, quand y a des enjeux autour du métier, en fait, on va dire que ce qui est un peu spécifique avec le métier d'interprète, c'est qu'on est intimement lié à la situation de la communauté sourde. C'est-à-dire que quand la communauté sourde fait des progrès dans la société, notre métier profite de ces progrès. Quand la communauté sourde subit des discriminations, nous, par ricochet aussi. Donc il y a toujours eu historiquement un lien très fort entre les interprètes et la communauté sourde. Et donc notamment, là, pour tout ce qui a... Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, mais depuis l'arrivée du Covid, il y a eu quand même un grand changement. C'est la présence des interprètes de manière beaucoup plus massive à la télé et notamment sur toutes les allocutions importantes. Aujourd'hui, c'est devenu automatique quasiment qu'il y ait des interprètes. Tous les discours de Véran, de Macron, ils sont interprétés. Et ça c'est une victoire très récente. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai été diplômée interprète il y a 5 ans, donc il y avait la présidentielle de 2017 qui est arrivée. Moi, j'étais diplômée fin 2016. Et en fait, à ce moment-là, il y avait un mouvement qui s'était monté de la part, monté par les sourds partout en France pour exiger quand même quelque chose qui paraît hyper basique, que en fait, les meetings politiques soient accessibles en langue des signes. C'est-à-dire que les citoyens sourds puissent avoir accès à l'information minimale de pour qui je vais voter, qu'est-ce que défendent ces personnes. Et de même pour les débats télévisuels. Et à cette époque-là, ça avait été très compliqué. Il y avait eu des actions coordonnées entre des sourds et des interprètes. Du coup, des interprètes qui étaient venus bénévolement sur ces actions, parce que du coup, les sourds envahissaient des meetings politiques pour réclamer de l'interprétation. Mais du coup, bah, dans ces moments-là, il faut aussi de l'interprétation pour que les gens puissent se comprendre. Et voilà. Et bon, ça, du coup, je parle, c'est 2017. Il y a eu pas vraiment une victoire à ce moment-là. Il y a quelques meetings qui ont été rendus, qui ont été accessibles, mais peu, et la télé très peu. Et là, vraiment, depuis le Covid, c'est une victoire, mais c'est une victoire parce que ça fait 15 ans que les sourds demandent de l'interprétation à la télé, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a des outils de travail, alors ça passe par des machines, des outils, du vocabulaire spécifique, des abréviations. Est-ce que tu utilises comme ça des outils particuliers propres à ce métier ?
Mes outils de travail, on fait souvent la blague, mais mes outils de travail, je les ai sur moi, c'est mon cerveau et mes mains et ma bouche. Ouais. Du coup, s'il y a un de ces outils-là qui ne fonctionne pas bien, je ne peux pas travailler. Donc ça, c'est une particularité. Après, comme beaucoup de gens, je travaille sur l'ordinateur. Du coup, je prépare mes interventions sur ordinateur. Je reçois beaucoup de documents que je lis. Je fais des recherches sur Internet. Donc, ouais, mon ordinateur et mon téléphone, parce qu'il faut qu'on puisse me joindre tout le temps quand je suis au travail. Le GPS est un outil très important quand on est interprète. Vraiment, vraiment important. Et après, je sais qu'il y a plein de collègues dont l'outil de travail, c'est le vélo. Moi, c'est pas le cas. Mais je sais que le vélo est quand même un outil de travail important pour pas mal d'interprètes à Toulouse. Je pense que c'est une spécificité toulousaine. Après, j'ai pas d'outils particuliers. Et des abréviations, je réfléchis, mais ça me vient pas. Non, j'ai pas l'impression.
Pour aller un peu plus profondément sur ta mission, au-delà de l'interprétation stricto sensus, est-ce que tu ressens une responsabilité plus large dans ton travail que le transfert d'un mot à un autre, enfin que l'interprétation ? Est-ce que quelle est la charge mentale, j'ai envie de te dire, qui intègre, enfin dans lequel est intégrée cette interprétation ?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités dans le fait d'interpréter, parce que c'est pas anodin d'être le vecteur, enfin la vectrice en l'occurrence, du discours des autres. Je pense que c'est une responsabilité très particulière. Moi, je traduis pas des mots, je traduis du sens. Et du coup, et je traduis pas des signes, et je traduis toujours du sens, peu importe que je traduise vers le français ou vers la langue des signes. Et en fait, le vouloir dire, interpréter au plus juste le vouloir dire de quelqu'un, c'est une sacrée responsabilité. Je pense qu'il n'y a aucun interprète qui le prend à la légère, parce qu'on est à un certain degré garante de la situation de communication et de comment est-ce qu'elle va se dérouler. Sachant que nous, du coup, on a quand même un cadre déontologique qui entoure notre métier, qui est sur 3 piliers qui sont la neutralité vis-à-vis de la situation. Donc ne pas intervenir, ne pas donner notre avis sur ce qui est en train de se dérouler. La fidélité, donc retranscrire, interpréter au plus juste le vouloir dire des personnes. Et le secret professionnel, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la situation d'interprétation ne sortira pas. Ne sera jamais communiqué à d'autres personnes. Et du coup, ces trois piliers déontologiques qui sont très importants, c'est ce qui garantit la confiance, parce qu'en fait, pour que des personnes acceptent, enfin nous, il faut qu'on se fasse accepter dans la situation. C'est pas toujours gagné. Et du coup, notamment pour que les gens nous acceptent, il faut qu'ils nous fassent confiance et qu'il faut qu'ils sachent que leur parole, elle va pas être déformée, qu'on vient pas avec des intentions malveillantes. Et qu'on est là en essayant à la fois d'être la plus transparente possible, en sachant que moi je pense que c'est difficile, on en revient un peu. Moi quand j'ai été formée en tant qu'interprète, il y avait beaucoup de discours autour de l'interprète doit être transparente. C'est même pas objectif, c'est vraiment transparente, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on oublie qu'on est là. Moi aujourd'hui, avec 5 ans de pratique, je me dis c'est plutôt comment faire pour que les gens sachent qu'on est là, mais qu'on est là dans la bienveillance et dans la volonté de faire au mieux pour que la situation se déroule bien. Je pense qu'on a une présence qu'il faut assumer quand on est interprète. Je pense qu'il faut assumer qu'il y a des choses qui se passent plus ou moins bien aussi du fait de notre présence, mais que tout ne nous revient pas. Et du coup, je pense que c'est ça la question de la responsabilité dans le métier d'interprète. Elle est, en fait, c'est du one shot. C'est un métier de la performance. Du coup, c'est le discours, il a commencé, la situation, elle a commencé. Je ne peux pas dire, ah, excusez-moi, j'ai envie d'aller faire pipi. C'est je suis là et je dois être là à 100%. Et ça, du coup, oui, ça donne une responsabilité particulière. Et je pense que c'est une des choses qui conduit à du stress dans notre métier. C'est que, bah, comme on va toujours dans des situations différentes, il faut qu'on soit capable très rapidement dans une situation de comprendre qui est qui. Qui veut quoi à qui vient avec quelle intention, qu'est-ce que les gens ont à se dire, qu'est-ce qui est implicite dans la situation, c'est quoi l'attitude corporelle des gens. Faut être à la fois sympathique mais professionnel, ferme dans les moments où on doit défendre nos conditions de travail, mais souple, parce que en fait il y a des moments où faut que nous aussi on puisse s'insérer parfois dans des situations qui sont pas vraiment prévues pour nous. Je pense notamment des endroits où il y a pas de place. Juste littéralement pas de place pour nous. Donc on est tout le temps à jauger la situation et à savoir comment est-ce que nous on va s'y intégrer le mieux possible, et avec cet objectif que les gens, enfin que le discours des gens il soit interprété le plus fidèlement possible, quoi. Du coup, ouais, c'est une lourde responsabilité quand même.
Bien sûr, puis j'imagine que ça peut aller au-delà. Je t'imagine avec quelqu'un en prise en négociation, ou en tout cas en position pas forcément confortable face à l'administration, par exemple.
Ouais, moi j'ai assisté à... Enfin, je pense que c'est sûr, en 5 ans de carrière, assisté à pas mal de... Enfin, quand je disais tout à l'heure, en fait, la situation des sourds, donc les stigmates et les discriminations que vivent les sourds se répercutent par ricochet sur nous. Sur ces 5 ans de métier, je le vois de plus en plus clairement, je pense, parce qu'au début j'étais plus focalisée sur la technique. Maintenant je pense que ça va bien, la technique, et du coup je suis capable de regarder d'autres choses dans les situations. Mais en fait, toutes les violences institutionnelles que vivent les personnes sourdes dans leur prise en charge médicale, administrative, ben, nous, en tant qu'interprètes, on en est les témoins. Sachant qu'on a ce devoir de neutralité qui fait qu'on ne peut pas intervenir pour mettre fin à cette situation-là. Ça, je pense que c'est quelque chose de très particulier dans notre place d'interprète. Et l'inverse, c'est-à-dire que les stigmates qui sont projetés sur la population sourde peuvent avoir des conséquences sur la manière dont les autres professionnels nous perçoivent. Ouais. Donc, ils nous perçoivent comme des accompagnatrices, parce qu'ils partent du principe que, du coup, c'est des personnes handicapées, donc c'est des personnes non autonomes. Oui. Donc, on a quand même souvent, on est obligé de remettre à leur place des personnes en disant que nous, on n'a aucune vocation d'accompagnement social, qu'on est un métier de la communication, qu'on va juste interpréter, que c'est déjà beaucoup, qu'on ne peut pas faire plus dans la situation, et que ce n'est pas notre rôle. Et aussi des gens qui projettent que les gens, ils ont des interprètes particuliers. Donc comme si toutes les personnes pour qui je venais traduire, c'était des gens que je connaissais et avec qui je passais 24 heures sur 24 du temps de ma vie. Donc ça, c'est assez marrant. En général, ça met c'est assez cocasse. Et après, on peut avoir des résistances plus liées à la question notamment des professions qui sont habituées à avoir de l'autorité, enfin une place d'autorité, donc notamment des professeurs et des médecins.
Et des médecins, j'allais
dire. C'est les deux professions, notamment des professeurs, plutôt des profs d'université, mais pas que. Moi, j'ai eu, oui, il n'y a pas longtemps, une situation d'une professeure qui avait beaucoup de mal à accepter que je me mette à côté d'elle. parce qu'elle disait que j'allais perturber les étudiants, qui du coup n'allaient pas se concentrer sur elle et ce qu'elle disait, et se concentrer sur moi. Et il a fallu argumenter assez longtemps, avec beaucoup de diplomatie, mais tout en sachant que derrière, pour moi, il y avait vraiment des questions. Il y a des questions d'ego, quoi. C'est que l'interprète... Il y a des gens qui ont du mal à accepter qu'on prenne leur voix, quoi, qu'on devienne un peu eux. Mais c'est juste pour une heure, hein, vous inquiétez pas.
Avant une petite pause, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui est aidant dans ton travail? Et qu'est-ce qui, à l'inverse, qu'est-ce qui te contraint ou t'empêche de réaliser tes missions comme tu les estimerais au mieux?
Ce qui est aidant, c'est quand les gens connaissent le dispositif d'interprétation, savent comment ça va se passer. Donc typiquement, les situations où on va traduire régulièrement. Ça, c'est des situations qui sont extrêmement confortables en règle générale parce que tout le monde sait ce que nous, on peut ou ne peut pas faire. Ça, c'est très aidant. En fait, les gens dans la situation, quand les gens sont informés de comment ça fonctionne, que les gens, ça peut paraître hyper basique ce que je vais dire, mais en fait, ont du respect pour les personnes sourdes et l'inverse, les personnes sourdes ont du respect pour les personnes entendantes, mais bon, en général, c'est quand même plutôt le problème de respect, il vient plutôt d'un côté. Et que les gens comprennent que nous, on est un outil de communication, qu'on ne va pas interagir dans la situation, ça, c'est super aidant. Et le truc qui est super aidant aussi, c'est quand les gens, ils nous envoient des informations au préalable pour savoir qu'est-ce qu'on va traduire, ça va être quoi la situation. Ça, c'est tellement confortable d'arriver dans une situation où on sait ce qui va être dit, à peu près. Ouais. Parce que moi, je dis souvent, en fait, le métier d'interprète, c'est comme si on était des actrices à qui on n'a pas donné le texte. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc, plus on peut avoir une idée de ce que ça va être le texte, mieux on va se sentir. Ce qui n'est pas du tout aidant, c'est les gens qui lisent. Ça, je déteste ça. Donc typiquement, la lecture, puisque en fait, dans la manière dont on fabrique un texte en français et la manière dont normalement on s'exprime à l'oral, on construit ses phrases très différemment. Il y a déjà une syntaxe très différente entre le français et la LSF. On peut dire que c'est une syntaxe inversée. Et du coup, typiquement, la forme écrite du français est lue. À interpréter en simultané, c'est moi, ça fait partie des choses que je déteste interpréter. Je pense que je suis pas la seule. C'est ma bête noire. Et ce qui est pas aidant, c'est quand on a des problèmes pour entendre correctement le discours, par exemple, donc des ennuis techniques, on va nous placer au mauvais endroit.
Les conditions de travail matérielles et techniques.
Ça, c'est pas du tout aidant parce que ça va jouer quoi.
D'accord. On fait une petite pause musicale?
Ça marche.
C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Spéciale dédicace pour toi, Bassem.
Oh, la team Haliba. Y en a que je respecte, mais nous, c'est plus la team Hams. Tu m'as fait rire, toi, papa, tu as fait trop rire. FDJ t'a crié dessus, tu lui as dit, j'ai fait ça pour rire. Sale gros bâtard, vive les Arabes et les Noirs. Vive la fierté et l'honneur, t'étais l'ami des violeurs. Je parle de toi-même sur de la peine. Ici c'est Lyon, elles sont rares les balles prennent. Force souffriront enfermés sans balcon. Là je rigole mais je te dis fais pas le con.
Oh, vous avez vu les gars, Bassem il a envoyé un message sur Snap. Il disait il était le papa de Lyon.
T'étais mon frère mais tu m'as planté. J'suis pas trop là, ce soir j'rentre par, j'suis défoncé. Ne m'appelle pas, l'alcool, le shit m'a matrixé. Y'a pas de papa, tu manges des tartes mais t'es encore là. FDG t'as écarté, du terrain t'es dans le corner. Moi j'comprends pas, j'dis pas que tu me sers à toi. Moi j'suis en pleine campagne, j'ai pas vidé.
Allez, parfois, non. T'es parti loin, rien foutre, toi tu perds pas le nord. Tu te rétractes quand on prend la mort. Les gars, c'est Haja, avec ses cagnottes, ils volent les Haja. Tu tailles les frangines, mais n'oublie pas que c'est des McWebbin. Oublie pas ce que tu m'as dit, même Benzema, tu lui donnais pas l'heure. À t'écouter, t'es le boss de Palerme. Passez ma promenade, faites place, les violeurs.
Le gérant ravitaille le bosseur. Toi, t'as cru que t'étais le boss. De mon phare, ouais, tu bafouilles. En freestyle, je vous mets des baffes. Et au fait, c'était comment la rate de Bassem. Les violeurs, ton bison, dû te le casser. Avec FDJ, mais vas-y, casse-toi. Hey, mais vas-y, casse-toi. Avec les roses putes, on est tous sous bringue. Tu fais 2 mètres, mais t'es qu'une balle dringue. Sur ce sous, je mets des coups, matraque. Tu pas qu'à ta construite, t'es plein de drague. Et celle-là, c'est pour les gros qui braquent, braquent. En golf sévère, en S3, sport, back, back. Casse un tour à Bel Air, allez vénère la back, back. C'est la gratte ici, nous parle pas de back, back. Ça dégaille ta fin, get get, get, bat, bat. C'est un parterre, tu t'es pris des coups de bat, bat. Et moi, je me la raclais en pétant ma grosse bat, bat.
Ce monsieur est malade, beaucoup il papote. Avec violeur en promenade, et ça se prend pour papa. Y'a pas de papi, pas de papa, allez par toi, là. Y'a pas de papi, pas de papa, allez par toi, là.
Passe, vas-y, Aïchik, donne-moi mon argent que tu m'as volé dans ta cagnotte, s'il te plaît. Tu m'as promis un frigo, tu m'as offert un mégot, hein.
Merci pour cette petite pause, Cléa, pour cette petite pause musicale. Petit clin d'œil au Dalton, ça fait du bien. On revient, Kim, interprète en LSF, là, sur les chroniques du travail. On va commencer par une question que j'aime bien, moi. Est-ce que tu pourrais nous raconter deux moments, dans l'ordre que tu veux, un moment de loose dans ton travail et un joli moment?
Alors, un moment de loose, alors je sais pas si c'est vraiment un moment de loose, mais c'est un moment qui m'avait marqué parce que je l'avais trouvé improbable. C'était quand j'étais encore stagiaire, quand je faisais mes stages pratiques d'interprétation. J'avais traduit à l'hôpital. Donc, j'étais contente parce que c'était la première fois que je traduisais une consultation de A jusqu'à Z, sans intervention de ma tutrice. Et donc, le rendez-vous se déroule très bien. Et puis, donc c'était un rendez-vous médical avec une médecin, avec une ORL. Et à la fin de ce rendez-vous, ce médecin me serre la main en me disant « Mais dis donc, c'est incroyable, je savais pas du tout que... Bah, je savais pas du tout que je connaissais la langue des signes, j'ai tout compris. » Et donc, cette médecin avait, pour le coup, complètement oublié que c'était ma voix et que c'était moi qui interprétais. Donc, c'était plutôt un moment de réussite personnelle, mais un peu un moment de loose, de « Mon Dieu, mais cette médecin n'a pas du tout compris le dispositif. Qu'est-ce qu'elle a compris de cette situation ?» C'était assez marrant. On avait beaucoup rigolé avec ma tutrice. Et alors, une anecdote joyeuse, ben, je pense qu'il y a toutes les situations où on arrive stressé et où en fait finalement ça se passe bien. Mais je trouve que là, depuis que je suis à Toulouse, je traduis plus régulièrement pour des enfants. Et notamment, je traduis des cours plutôt de sport, des entraînements, où il y a un objectif, on va dire, d'intégration dans une équipe aussi. Et le fait de constater, quand on va régulièrement dans une situation toutes les semaines, de voir qu'au début, les enfants entendants ne s'adressent pas du tout à l'élève, pour le coup, c'est pas un élève, à l'enfant sourd, et que progressivement, par sa présence, par le fait qu'on soit présent en tant qu'interprète, l'enfant sourd s'intègre petit à petit dans le groupe et que les enfants entendants lâchent un peu leur timidité, et de voir au bout d'une année que tout le monde s'entend très bien et discute ensemble par plein de moyens, soit par moi, soit par d'autres moyens. Et ça, c'est vraiment à ça qu'on sert, et du coup, ça fait plaisir.
Oui, j'imagine que dans ce type de situation, il y a une petite idée de transmission aux camarades de l'enfant pour qui tu travailles, qu'ils aient quelques billes, quelques petits mots et
Oui, en général, au bout d'un moment, les enfants viennent nous voir en disant « Mais comment on dit ça déjà ? J'ai vu tout à l'heure, t'as fait, est-ce que tu peux me remontrer ?» Et on voit quoi, la première séance où les enfants entendants disent bonjour en langue des signes, ça fait plaisir.
Bon. Allez, on va aborder le sens, la dimension un peu plus politique de ton métier. D'abord, une question personnelle. Pourquoi est-ce que tu fais plutôt ce métier, plutôt ce métier qu'un autre ?
Bah, je pense à la base pour des raisons politiques. C'est sûr que ça a été le premier moteur. Moi, j'ai rencontré la communauté sourde quand j'étais petite. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait des élèves sourds dans mon école. Donc, on avait été un peu sensibilisés à la langue des signes. Et moi, je m'étais liée d'amitié avec un des petits garçons sourds. On se voyait pas mal en dehors de l'école parce qu'on allait à la même plage. Et du coup, je pense que c'était ma première rencontre avec la langue des signes. Puis après, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. Et quand l'entrée dans les études supérieures, ça correspond à un moment donné où je me suis plus politisée. Et en fait, donc j'habitais en Bretagne. Et en Bretagne, il y a pas mal de festivals de cinéma qui ont commencé à se rendre accessibles au public sourd. Et moi, j'étais bénévole dans pas mal de festivals de cinéma militants. Et du coup, ça a été ma deuxième rencontre avec la langue des signes. Et on va dire avec du coup complètement un autre regard, aussi plus politique. Et du coup, de découvrir à ce moment-là qu'est-ce que c'était en fait la situation à la fois de la communauté sourde dans l'espace social. C'était quoi l'histoire de violence et de discrimination vécue par la communauté sourde, parce que c'est quand même... Et du coup, par leur langue, en fait, comment la langue des signes, elle a été quand même interdite pendant 100 ans en France dans le cadre de l'enseignement. Donc on a quand même... laisser la communauté sourde sans possibilité d'accès au savoir par leur langue maternelle pendant 100 ans, ce qui est quand même un truc de ouf. Et du coup, découvrir toutes les mobilisations dans l'histoire de la communauté sourde, ses combats, et du coup, la place des interprètes aussi dans cette histoire de lutte. Les interprètes, à la base, les premières personnes qui ont eu le statut d'interprète en France, c'est des gens qui étaient très liés à la communauté sourde, qui prenaient part à leur lutte. Et donc, moi, cette histoire-là, elle m'a touchée particulièrement. Et j'avais envie j'avais envie aussi que mon métier puisse contribuer à rétablir à un moment donné, en tout cas... la possibilité de contribuer à ce que les sourds puissent s'exprimer au même titre que n'importe qui dans la société, quoi. C'était un peu ça.
J'allais y venir, j'allais te dire pour toi quels sont les enjeux de ce métier. Et on en est là, c'est évidemment l'inclusion.
Mmh. Ouais, et puis pas l'inclusion vue comme un truc... parce que bon, peut-être que maintenant, l'inclusion, c'est un... Vu comment ça a été porté par les politiques... ces 20 dernières années, bon, c'est beaucoup du discours, l'inclusion. Je pense qu'à Toulouse, il y a une situation qui est très particulière, qui est loin d'être parfaite, parce que, par exemple, l'accès aux études supérieures pour les étudiants sourds, ça reste un combat incroyable. Ils n'ont pas du tout accès à l'entièreté de leur parcours universitaire qui est pris en charge d'un point de vue financier. Donc, ils sont obligés de choisir certains cours. Ce cours-là sera interprété par un autre. Donc, ils n'ont pas accès au même titre que les étudiants entendants à tout leur cursus. Donc, ce n'est pas fini. Mais, Toulouse, ça reste une situation très spécifique. Ailleurs... les enjeux, c'est on en a encore à ce que des élèves sourds puissent accéder au même programme que les élèves entendants, au programme de l'éducation nationale mais en langue des signes, la possibilité que les sourds puissent travailler comme n'importe qui. Je pense aussi aujourd'hui, il y a un des enjeux, c'est la question du téléphone pour les sourds. On voit aux États-Unis, ça doit faire 20 ans maintenant que les sourds ils peuvent téléphoner sans souci via des plateformes où il y a des interprètes qui traduisent. Bon, en France, on en est au début de l'émergence de ça. Ces trois dernières années, c'est mieux, mais donc il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont pas respectés, quoi. Et du coup, notamment la prise en charge par l'État. Que ces services publics soient accessibles aux personnes sourdes.
Absolument, parce que ça reste payant, ces plateformes. En tout cas, les sourds et malentendants ont une heure, je crois. Mmh. Ils ont un quota, ils ont une heure à utiliser, et après, c'est payant.
Oui, et puis même pour le téléphone, mais même pour aller... tous les rendez-vous dans le service public, c'est-à-dire des sourds qui vont à la CAF, pour l'instant, c'est les sourds qui payent l'interprète. Enfin, la CAF, c'est un service public. Donc, ça, l'interprète devrait être payé par l'État, en fait. Et il y a tout un champ du service public qui n'est pas du tout accessible aux sourds et où c'est eux qui doivent payer de leur poche. Et ça, c'est scandaleux, quoi.
Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses dans ton travail qui te posent des problèmes de conscience
Oui, ça, c'est sûr. Bah, je pense que ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de... que notre cadre déontologique et la neutralité dans les situations fait qu'on est parfois témoin de choses violentes. Alors, des fois, c'est de la violence physique, des fois, c'est de la violence symbolique. Bon, les deux font des dégâts. La violence symbolique, pour moi, elle fait plein de dégâts aussi, dans l'estime de soi, dans la manière dont on se perçoit. Et du coup, d'assister à ce type de violence sans avoir de possibilité d'intervenir, bah, ça, c'est des cas de conscience réguliers, ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on débriefe quand même beaucoup avec les collègues en analyse de la pratique.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu une lutte ou des luttes récemment ? Est-ce que tu nous parlerais d'une lutte voilà, que tes collègues ont faite ?
Alors, je ne sais pas si... récemment, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, il y avait justement des interprètes qui s'étaient mobilisés à Paris, qui étaient interprètes du coup dans une structure, une institution où il y avait des élèves sourds. Et je sais qu'elles s'étaient mobilisées pas mal de semaines. Elles avaient fait grève, notamment pour une revalorisation de salaire. Elles ont obtenu gain de cause. Et là, plus récemment, bon, c'est pas une lutte au sens organisé sur place, parce que là, c'est les collègues que j'évoque, elles avaient vraiment fait grève et elles avaient fait des piquets, elles avaient tenu la place dans leur institution. Mais là, récemment, il y a eu un article publié par Mediapart sur des violences institutionnelles, donc aussi à Paris, où en gros, il y a une institution qui a été récupérée par un directeur qui a envie de faire beaucoup d'économies. Et donc, avec en interne, donc plein de professionnels hein, qui travaillent dans cette institution, dont des interprètes. Et l'enquête de Mediapart a révélé bon, des gros manquements déjà de base en termes d'accessibilité pour les élèves, pour les personnes accompagnées dans cette structure, qu'en fait, elles n'avaient pas systématiquement des interprètes présents avec elles et eux dans les situations où c'était nécessaire. Et plus que ça, des violences internes à l'institution exercées sur les enfants et les adolescents accompagnés. Donc ça a fait grand bruit, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais en tout cas je pense que c'est assez symptomatique de ces grosses institutions qui emploient notamment des interprètes, et c'est un peu le symptomatique de la situation du médico-social plus largement, et où en fait aujourd'hui on a des institutions qui avant étaient des écoles pour sourds, qui aujourd'hui mélangent des publics très divers, ou avec des besoins et des spécificités très différentes, et ça cohabite mal, et avec des professionnels qui sont juste épuisés, parce que les professionnels du travail social sont épuisés aujourd'hui.
Ouais. À quoi ça ressemblera, ton travail, dans 10 ans ?
Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question que pas mal d'interprètes se posent, avec notamment le développement de l'interprétation à distance. On l'a vu avec le Covid, on a été amené à traduire beaucoup plus à distance. C'est pas très confortable. Je pense que les capitalistes ont très envie que ça aille dans ce sens-là, parce que c'est bien plus intéressant financièrement pour eux, parce qu'on se déplace pas. Donc ça fait des frais en moins. Pour nous, c'est des conditions de travail plus difficiles. Et donc je pense que l'interprétation à distance va se développer, et qu'il y a un gros enjeu à ce que les interprètes soient vraiment partie prenante de cette évolution et des conditions de travail minimales qu'il faut qu'on exige autour de l'interprétation à distance. Là, c'est le cas notamment sur les plateformes téléphoniques aujourd'hui qui se mettent en place, de centres relais téléphoniques. Il y a un certain nombre de plateformes qui ont été créées à l'initiative d'interprètes. Donc les conditions de travail sont plutôt bonnes, mais on sait que ça va être la concurrence dans les années qui viennent sur ces plateformes téléphoniques. et que bah, on sera les interprètes en première ligne, quoi, de, si les conditions de travail baissent, je pense que ça va faire... Ça va faire évoluer le métier et aussi de réussir avec le développement de l'interprétation à distance, de continuer à justifier l'interprétation en présentiel, ça va être plus compliqué. Donc il faut qu'on prépare notre petite malle d'arguments pour continuer à convaincre les gens que c'est mieux qu'on soit en présentiel. Et après, je pense que c'est un métier qui va se développer quand même. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se forment, donc je pense qu'on va être plus à faire ce métier. Et du coup, bah, je pense que ça va être aussi peut-être plus facile de se battre pour des conditions de travail, parce qu'on sera plus. Et après, je ne sais pas, la dernière évolution, je pense qu'on va être amené à traduire des choses de plus en plus variées, parce que j'ai espoir que les personnes sourdes vont pouvoir accéder à tous les domaines de la société comme les personnes entendantes, et qu'on va, de ce fait, se retrouver à être embarqués dans des missions... un peu inattendu, et ça c'est plutôt chouette.
On s'arrête sur cette note positive. Merci Kim.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Et avant de se quitter et de rejoindre Marie-Madeleine pour son magazine, je voulais juste signaler qu'il y a un rendez-vous à Saint-Cyprien à partir de 14h, appelé par plusieurs syndicats pour justement une grosse journée de grève dans le secteur sanitaire, médico-social et social public et privé. Voilà, du coup...
Et beaucoup pédiatrie, hein, je crois que ce sont des infirmières, là,
venir, oui.
Sur le secteur pédiatrique de Purpan, ouais. Là, je crois, qui ont lancé l'appel aujourd'hui.
À tout de suite, merci,
merci
beaucoup.
Merci, Cléa.
Merci, au revoir.
Qui est-ce qui a branché ce réveil de merde ? Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonar, taillé pour les laflards. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle de la banque. Ma mère voulait que je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle de la banque. J'aurais pu être un sportif de très très haut niveau, peut-être footballeur, mais j'avais pas les abdos. Alors j'ai opté pour championnat de PlayStation. Assis dans mon canapé, je suis le roi de l'accélération. Mais pas de bol, j'ai fini sur un coup dur. J'ai stoppé ma carrière pour cause de blessure. Je me suis cassé le pouce en forçant sur la manette. Résultat, un an d'arrêt, maintenant j'ai la charrette. Donc il a fallu que je me trouve une nouvelle motivation. Un truc moins physique que le sport de salon entre deux siestes.
J'ai eu comme une révélation.
Je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'action. Un stylo bic et un cahier à spirale. Une sono full clip avec un son qui fait mal. Avec des rimes et des rêves plein les mirettes. Me v'là équipé pour sauver la planète. Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonar, taillé pour les leflards. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle ta banque. Ma mère voulait que je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession salle ta banque. Salle ta banque, c'est le caillou dans la chaussure, l'agitateur libre qui défie la censure. Voilà 15 piges que partout je fous la foire, comme un troubadour que je raconte mes petites histoires d'adolescents attardés qui rêvent d'un monde meilleur, qui rêvent d'égalité, qui dans sa chambre a trop écouté Bob Marley en dormant, poing serré devant le poster du Che. Ouais, j'avoue, y'a pas de quoi se la raconter, d'être fier, de glander toute la journée, mais c'est pas de la fainéantise, je peux te le jurer depuis tout petit. J'ai un problème avec l'autorité, moi pas comprendre. Quand patron dit travailler, moi pas obéir au chef qui crie toute la journée, même si moi pas ramener d'argent à ma banque. Bah tant pis, je resterai sale ta banque. Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonar, taillé pour les leflards. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession sale ta banque. Ma mère voulait que je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession sale ta banque.
Votre nom?
HK. Hein?
Votre profession?
Saltimbanque.
Non, votre métier, votre travail, quoi, ça?
Poète, musicien.
Mais vous me faites perdre mon temps, monsieur!
Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur, pour pas que je finisse par fouiller dans une belle ordure. Ils me voyaient architecte ou directeur de banque, j'ai choisi une autre voie, profession saltimbanque. On m'a dit de me lever tôt, pas faire le feignant. J'ai donc réveillé tout le monde en chantant debout là-dedans, en mission sur les routes pour faire sauter la banque.
bandit de grand chemin, profession sacrément.
Nos parents se sont tués à la tâche, 13 heures par jour, parfois 7 sur 7 sans relâche. Les miens se lever avant le soleil à 3 heures du mat.
Le travail c'est la santé,
va dire ça aux petits chinois qu'on l'exploite. Retour au 19e siècle, on voudrait nous faire travailler plus, pour gagner plus, pour dépenser plus, pour quelques points de croissance en plus, faudrait que je me lève tôt, que je travaille tard plus longtemps, histoire peut-être que je crève un peu plus tôt, histoire d'équilibrer nos retraites. Et pour l'instant, notre président se fait doubler son salaire, l'air de rien. Va savoir, au fond, c'est peut-être un régime spécial pour payer sa pension alimentaire. Pour me faire couper toutes ces conneries, faudra se lever de bonheur. Je suis tout sauf un feignant, moi aussi je donne de ma sueur. Je m'arrache, H24 sans relâche, pour un autre demain. Je suis motivé, motivé, comme diraient les frangins. Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur, pour pas que je finisse par fouiller dans une belle ordure. Ils me voyaient architecte ou directeur de banque. J'ai choisi une autre voie, profession saltimbanque. On m'a dit de me lever tôt, pas faire le feignant. J'ai donc réveillé tout le monde en chantant debout là-dedans. En mission sur les routes pour faire sauter la banque. Bandit de grand chemin, profession saltimbanque.
Je pourrais chanter la 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 façon Benabar ou de l'air. Mais sûr que ma musique passerait en boucle sur France Inter. Chanter des conneries du genre on se commande une pizza.
J'ai plutôt choisi d'ouvrir ma gueule, remuer la merde, me remémorant la grande époque, Ayam assassin NTM. Le monde de demain devait nous appartenir, mes petits frères par Babylone s'est laissé endormir.
Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on attend pour se soulever? Peuple uni, le point levé, relevé, nos idées ont ravalé, trop de foot est avalé, nos rêves envolés, révolution dévoyée.
On a pris notre micro, notre baluchon, kilomètre avalé. Nouvelle époque, nouvelle grosse gueule, la relève s'est révélée. À l'ancienne, on a parcouru les routes de France, histoire de voir ce qui se passait, remuer les consciences. Mais la France, c'était trop petit pour nos visées révolutionnaires. Désormais, appelle-nous saltimbanque sans frontières.
Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur, pour pas que je finisse par fouiller dans une benne à ordures. Ils me voyaient architecte ou directeur de banque. J'ai choisi une autre voie, profession saltimbanque. On m'a dit de me lever tôt, pas faire le feignant. J'ai donc réveillé tout le monde en chantant debout là-dedans. En mission sur les routes pour faire sauter la banque. Bandit de grand chemin, profession saltimbanque.
Saltimbanque, mec. Saltimbanque.